Eh bien, avec moi, Corinne Baranger, une nouvelle chroniqueuse sur les ondes de Choc FM 105.1, une chronique sur le développement durable. Alors, nous allons parler d'urbanisme en particulier, puisqu'on sait que les populations dans le monde vivent de plus en plus dans les villes. C'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on observe à travers le monde. Et bonjour, Corinne.
Bonjour, Xavier.
OK. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de jardins communautaires. Alors, j'ai une question un petit peu pour toi. C'est les jardins communautaires, est-ce que ça pourrait être une voie pour se nourrir à l'avenir dans les villes?
Alors, ça pourrait être l'une des voies, effectivement. Il en existe d'autres, bien évidemment. Pour l'instant, nous avons vu se développer ce que l'on appelle l'agriculture urbaine avec les fermes urbaines, tout ce qui est aussi de l'approvisionnement de proximité. On est en train de réinventer en fait une façon de se nourrir et on est en train de retourner surtout à des racines, retourner à une nourriture plus saine. Il y a vraiment un engouement de la population pour retourner à des façons de se nourrir où on revient d'abord à se nourrir avec des fruits et des légumes en priorité, et puis cette éducation que l'on a un petit peu perdue pour cultiver les jardins, pour cultiver les fruits et les légumes. Les jardins communautaires viennent un peu compléter tout un panel de nouvelles formes d'approvisionnement en nourriture.
D'accord. Et quels sont les avantages, Corinne, au lieu de faire venir la nourriture, si je comprends bien, de l'extérieur des villes et parfois même de très loin, quels sont les avantages d'essayer de produire? Parce que je ne pense pas qu'on puisse produire toute la nourriture en ville, n'est-ce pas? Mais en partie, c'est bien ça?
C'est cela, voilà. De toute façon, il va falloir aller vers un peu une autosuffisance dans les villes, dans la mesure où il y a une raréfaction des terres agricoles cultivables, vu que les villes s'étendent énormément. Et en conséquence, il va falloir s'approprier un petit peu les surfaces que l'on peut s'approprier en ville. Alors, cela va des parcs, des rues, des jardins qui existent déjà, mais aussi des toits des maisons ou des toits des immeubles. Il va falloir se réapproprier tout cet espace. Les avantages à développer ces jardins communautaires, c'est une préservation de l'environnement, et surtout aussi de recréer un petit peu de verdure en centre-ville qui va permettre de créer des îlots qui vont permettre de la réduction de chaleur en été, puisque vous savez on va avoir des degrés supplémentaires dans les années qui viennent. Ensuite, l'avantage d'avoir ces jardins, c'est un accès aux fruits et légumes de saison. Et on parle ici d'agriculture plutôt biologique, hein, on ne parle plus du tout de l'agriculture traditionnelle. Pour les jardins, c'est aussi une façon d'avoir de l'activité physique, de profiter de l'expérience des autres. Donc, je parlais d'éducation, d'enseigner aux plus jeunes, un retour à la terre, d'où vient un légume, combien de temps il faut pour le faire pousser, etc. D'un point de vue social aussi, c'était très intéressant, puisque ces jardins vont permettre de recréer des liens dans une communauté, permettre de se rassembler. Ça peut être aussi une aide à l'insertion, permettre de recréer une certaine sécurité dans certains quartiers. À Toronto, je sais que certains proposent même d'apprendre l'anglais en allant jardiner dans ces jardins communautaires.
Très bien. Tu as utilisé le mot « retour », Corinne. C'est un petit peu un retour de ce qui était fait il y a quelques années. Mes parents, je me souviens, avaient un potager. Et puis, si je me souviens bien, leur jardin, il y avait une grande partie potager et une toute petite partie court, mais il n'y avait pas vraiment de pelouse. Alors que si je regarde leur jardin aujourd'hui, c'est une grande pelouse et très peu de potager. Donc, on retourne un peu à des choses que l'on faisait autrefois, c'est bien ça?
Exactement. On retourne à ce que l'on faisait autrefois, c'est-à-dire le retour à la terre, à prendre une conscience qu'il faut, connaître un petit peu comment jardiner. Et puis aussi, les jardins communautaires, c'est quelque part une forme. Autrefois, il y avait ce qui existait depuis très très longtemps, depuis plusieurs siècles, ce qu'on appelait les jardins ouvriers, qui était un petit peu différent dans la mesure où on attribuait un lot, enfin une partie d'un terrain à un ouvrier qui vivait en appartement ou qui vivait dans une maison qui n'avait pas de jardin. Et il allait cultiver son jardin les week-ends et en fin de soirée. Les jardins communautaires, c'est une mise en commun d'un jardin. C'est-à-dire que c'est une parcelle qui va être cultivée en même temps par des gens d'une communauté, une école, des résidents d'immeubles, etc. Donc c'est un peu revisité. Mais il existe toujours ces jardins, cette ancienne forme de jardin ouvrier dans certaines villes. Il y a plusieurs projets qui existent. À Toronto, malheureusement, je ne connais pas d'exemple. Peut-être il en existe, mais je n'en connais pas. Ce qui se développe à Toronto, c'est surtout les jardins communautaires, c'est-à-dire on partage tout au niveau du jardin.
D'accord. Alors, où est-ce qu'on en trouve à Toronto? Est-ce qu'on va dans les parcs de Toronto ou certains endroits de la ville?
Tout à fait. Il en existe plus d'une cinquantaine à Toronto. Disons que le maître d'œuvre de ces jardins, c'est la ville de Toronto. Pour trouver toute information sur ces jardins, il faut simplement aller sur le site de la ville de Toronto et regarder à Community Gardens Toronto. Il vous propose non seulement de vous aider à démarrer un jardin, mais ce que la ville a fait qui est très intéressant, c'est que c'est un partenariat avec Park and Recreation Toronto, qui gère les parcs de Toronto. Et donc la ville se propose de voir avec vous, si vous êtes dans un quartier, de voir s'il y a dans un parc à proximité un espace qui pourrait vous être alloué pour vous permettre de développer ce jardin. Donc, il faut prendre de toute façon contact avec la ville de Toronto. Par contre, il y a aussi un autre, si vous voulez rejoindre un réseau qui existe déjà, puisqu'il y en a de nombreux à Toronto, il y a le site de Toronto Community Garden Network qui rassemble ou qui collecte de l'information sur l'ensemble des jardins qui existent déjà à Toronto.
Et oui, et en fait, je sais que dans le parc tout près de chez moi, il y a même une serre. Donc, en ces températures hivernales que l'on connaît en ce moment, il est possible de faire du jardinage à l'intérieur dans une serre qui est mise à la disposition des résidents. Donc, la ville, c'est vraiment la ville de Toronto là qui mène le train. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, bien sûr, il peut exister des initiatives privées. Vous êtes dans une résidence où il y a un certain espace vert. Vous pouvez prendre une partie en demandant donc au propriétaire ou au superintendant ou aux personnes en charge de voir si on peut utiliser un bout de cet espace vert pour le transformer en jardin. De la même façon, il y a une expérience intéressante qui a débuté il y a quelques années maintenant, qui est un partenariat entre Foodshare, qui est une organisation importante à Toronto pour la provision d'aliments, de légumes et de fruits pour les gens qui ont des faibles revenus, mais aussi pour fournir ce qu'on appelle des paniers verts. Alors, il y a un partenariat entre cette organisation et le district, Toronto District School Board, avec les écoles. Les écoles ayant pour nombreuses d'entre elles des espaces verts, on transforme une partie de cet espace vert en jardin, ce qui permet d'éduquer aussi les enfants au jardinage, ce qui peut permettre aussi la pratique de plein d'autres activités autour du jardinage.
Un sujet passionnant, Corinne. Merci beaucoup et on te retrouve pour la prochaine chronique de développement durable. Je souhaite une bonne journée.
Toi aussi, merci.
OK, et on continue sur les ondes de Choc FM en musique.